بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Aujourd'hui, inshallah, on va voir encore une histoire. On vous capte en ce moment. La semaine dernière, c'était une histoire. Il y a quelques semaines encore, c'était une histoire. Aujourd'hui encore, c'est une histoire. L'histoire d'un jeune, mais c'est un jeune pas comme les autres. Ce jeune-là, son histoire, c'est pas une histoire contemporaine comme celle de la semaine dernière. C'est une histoire qui est citée dans un hadith que rapporte l'imam muslim. Selon Suhayb, radiallahu anhu. Donc on va attaquer cette histoire directement. Pour ceux qui la connaissent, tant mieux, c'est un rappel. Ceux qui la connaissent pas, ben, vous allez en tirer pas mal de leçons, inchallah. C'est l'histoire de Ashab al-Ukhdud, pour ceux qui connaissent. D'après Suhayb, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi: me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune homme pour que je lui enseigne la magie. Vous avez compris, un roi, il a un sorcier, ce sorcier commence à vieillir et il demande un jeune pour lui transmettre, lui faire hériter sa sorcellerie, comme ça quand il meurt, il y a un remplaçant. Il lui envoya un jeune homme, le roi lui ramène un jeune homme à ce sorcier. Sur son chemin vers le sorcier, le jeune homme rencontra un moine, quelqu'un qui adorait Dieu. Un moine. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Il faisait ainsi chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier. À chaque fois qu'il allait chez le sorcier, il restait un petit peu chez le moine, il écoutait un petit peu les paroles de Dieu, et après il allait voir le sorcier. Quand il arrivait auprès du sorcier, ce dernier le frappait pour son retard. Il reste une période chez le moine. Donc le sorcier le frappe. T'étais où? Pourquoi t'es en retard? Et commence à le frapper. Il s'en plaignit au moine qui lui dit. Il lui a dit: à ce moine-là, j'arrive pas à venir apprendre ma religion tranquillement. À chaque fois que je viens te voir, ben, le sorcier me frappe pour le retard. Qu'est-ce que je fais? Il lui dit, il s'en plaignit au moine qui lui dit: quand tu as peur de la colère du sorcier, quand tu as peur de la colère du sorcier, dis-lui, j'ai été retenu par ma famille. Et quand tu as peur de la colère de la famille, dis-leur, j'ai été retenu par le sorcier. L'essentiel, c'est que tu ne me cites pas pour pas que tu aies de problème. Il n'a pas demandé de mentir, là? Le commentaire, on va le faire après, inchallah. Entre-temps, voilà qu'une bête énorme interdit le passage aux gens. Un jour, ce jeune, il sort avec des gens et une grande bête, elle bloque la route. Ils veulent passer, ils n'arrivent pas. Le jeune homme dit: aujourd'hui, je vais savoir qui du sorcier ou du moine a le plus de, a la plus grande valeur. Qui a la plus grande valeur? C'est le sorcier ou le moine? Je vais le savoir tout de suite. Il a pris une pierre et dit: Seigneur Dieu, si l'œuvre du moine t'est préférable à celle du sorcier, tue cette bête afin de permettre aux gens de passer. Si tu préfères l'acte du moine, l'œuvre du moine à celle du sorcier, eh ben, en jetant cette pierre, fais que cette bête meure. Il la frappa alors avec cette pierre et la tua sur le coup. Donc Allah lui a montré un signe. Que le moine, son œuvre était plus aimée que le sorcier. Les gens eurent ainsi la voie libre. Il vint en informer le moine, qui lui dit, oh, il m'arrive un grand miracle. Aujourd'hui, j'ai fait ça avec la pierre, et j'ai dit ça à Dieu, et voilà le résultat. Et quand il est venu dire ça au moine, le moine lui a dit: mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi. Tu es arrivé à faire ce miracle. C'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. Wallah al-Azim, mes frères, chaque phrase elle a énormément de sens. Énormément de sens. Quand on analyse cette histoire, c'est répété tous les jours cette histoire-là. Tout ce qui a été dit, on le vit tous les jours. On va voir après. Il lui a dit: c'est pourquoi tu vas certainement être mis à l'épreuve. À partir du moment où t'as l'iman, t'as la foi, t'es mis à l'épreuve. Si il en est ainsi, ne dis à personne où je suis. Si t'es mis à l'épreuve et qu'on te fait la misère, ne parle pas de moi, faut pas que tu me cites, incognito. Ainsi donc, le jeune homme en arriva à guérir l'aveugle de naissance et le lépreux. Il guérissait les gens de la plupart de leurs maladies. L'un des courtisans du roi, un qui travaillait chez le roi, qui avait le sorcier là, qui était aveugle, en entendit parler et se rendit auprès de lui avec plein de cadeaux, de nombreux cadeaux. Il lui dit: tout ce que tu vois là est à toi, si tu arrives à me guérir. Le jeune homme dit: je ne guéris personne moi-même, mais c'est uniquement Dieu, le Très-Haut, qui guérit. Subhanallah. On va voir après tout ça, Inch'Allah, ensemble. Si tu crois en Dieu, le Très-Haut, je le prierai, il te guérira. Le courtisan crut en Dieu et Dieu le guérit. Il se rendit chez le roi et s'assit. C'est-à-dire, il a fait une dua. Il n'avait pas de pouvoir comme les prophètes, tu vois, le fait juste de toucher l'œil d'un aveugle ou d'un malade et ça y est, c'est rétabli. Non, il a fait une dua, une invocation, et à l'instant même, il a été guéri, cet aveugle. Après, il retourne chez le roi, et le roi il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a rendu ta vue? Comment ça se fait que tu vois maintenant? Il lui a dit, mon Seigneur m'a guéri. Il lui dit, est-ce que tu as un autre Seigneur à part moi? C'est pas moi ton Dieu. Il lui a dit, non, mon Seigneur et le tien, c'est Allah. Mon Seigneur est le tien et Dieu. Le roi le jeta en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonçât le jeune homme. Il l'a torturé, il lui a dit, qui t'a enseigné ça à qui? Après, il lui a dit, c'est pas moi, c'est le jeune homme. Il a pris le jeune homme, il l'a emprisonné, il l'a torturé, il lui a dit, qui t'a enseigné ça? Jusqu'à ce qu'il a dénoncé le moine. Et le roi, quand il a fait venir le jeune, avant de le torturer, il lui a dit, mon petit, te voilà arrivé à guérir avec la magie l'aveugle né et le lépreux, et à faire telle et telle chose. Il a travaillé avec moi maintenant, tu connais la sorcellerie. Mais il a pas compris que c'était pas de la sorcellerie. C'était quoi? Ce qu'on appelle karamat al-awliya, les miracles des saints. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie et tous ces trucs de charlatans. Le jeune homme lui dit, je ne guéris personne, mais c'est Dieu le Très-Haut seul qui guérit. Il le jeta donc en prison et ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il dénonça le moine. On fit venir le moine et on lui dit, maintenant, c'est toi la source des problèmes, renie ta foi. Ukfur billah. Renie ta foi. Et il refusa de le faire. On ordonna d'apporter une scie. Écoutez bien, une scie qu'on plaça sur la raie de ses cheveux, on lui coupa ensuite la tête qui tomba en deux morceaux. Mata fi sabilillah. On fit alors venir le courtisan, celui qui travaille chez le roi, et on lui dit, renie ta foi. Mais il refusa. On lui plaça la scie sur la raie de ses cheveux et on lui coupa la tête qui tomba en deux morceaux. On fit enfin venir le jeune homme et on lui dit, renie ta foi. Mais il refusa. Subhanallah. Des montagnes de hymen, de montagnes de foi. C'est pas pour le petit truc, il lâche sa religion. Et là, il dit, il ramène le jeune et il lui dit, renie ta foi, il refuse. Le roi le jeta à quelqu'un de sa suite et leur dit, amenez-le à telle montagne et escaladez-la avec lui. Une fois parvenu à son sommet, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le du haut de la montagne. Lui, on va lui faire une mort différente des autres. Il monte en haut de la montagne, on lui met bien la pression, et on lui dit, renie ta foi, il renie, tant mieux, il renie pas, on le jette de la montagne. Ils le prirent donc avec eux et escaladèrent la montagne. Il dit, le jeune, Seigneur Dieu, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. Il lui a dit, Allahumma kfinihim bima shi'ta wa kayfa shi'ta. Sauve-moi d'eux par ce que tu veux. La montagne se mit alors à branler, elle a commencé à trembler la montagne, ils sont tous tombés de la montagne sauf lui. Invocation. Après qu'ils tombèrent dans le vide, il vint dire au roi, il retourne vers le roi. Va le voir, c'est pas il prend la fuite, il s'enfuit, c'est un porteur de message. Il vint dire au roi, Dieu m'a sauvé d'eux. Le roi le jeta à des gens de sa suite et leur dit, allez avec lui et mettez-le dans une grande barque, un bateau. Une fois arrivé au large, demandez-lui de renier sa foi, sinon jetez-le à la mer. Ils partirent avec lui et une fois en pleine mer, il dit, Seigneur Dieu, sauve-moi d'eux avec ce que tu veux. La barque se retourna, ils se noyèrent et Allah le sauva. Il vint en marchant sur l'eau jusqu'au roi qui lui dit, qu'ont fait tes compagnons? Il lui dit, Dieu m'a sauvé d'eux. Il dit alors au roi, là le jeune, après deux tentatives, le roi n'arrive pas à le tuer. En haut de la montagne, ça a échoué. Sur le bateau, ça a échoué. Le jeune, maintenant, c'est lui qui prend la parole. C'est lui qui devient le roi. Regardez ce qu'il lui dit. Jamais tu ne pourras me tuer si tu ne fais pas ce que je vais t'ordonner de faire. Subhanallah. Tu ne pourras pas me tuer tant que tu ne feras pas ce que je t'ai dit de faire. Le roi lui dit, m'ordonnez quoi? Demanda le roi. Écoutez bien ce qu'il lui dit le jeune, très 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 intelligent. Tu rassembles ton peuple sur un même plateau, dans un seul endroit. Puis tu me crucifies sur le tronc d'un palmier. Tu prends avec une flèche, tu prends alors une flèche de mon carquois, tu places la flèche au milieu de la corde de l'arc et tu dis, au nom de Dieu, Seigneur et Maître de ce jeune homme. Bismillah Rabbul Ghulam. Bismillah Rabbul Ghulam. Au nom du Seigneur. Donc il va reconnaître le Seigneur. Hein? Au nom de Dieu, Seigneur et Maître de ce jeune homme. Tu me tires alors la flèche, et si tu fais tout cela, tu me tueras certainement. Il rassembla donc les gens sur un même plateau, crucifia le jeune homme sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois et la plaça au milieu de la corde de l'arc. Puis il dit, au nom de Dieu, Seigneur et Maître du jeune homme. Il tira alors la flèche qui alla se planter dans la tempe du jeune homme, en plein visage. Et il est mort, shahid, fi sabilillah. Le jeune homme porta la main à sa tempe et mourut sur le coup. Les gens dirent alors, ils ont vu tout ça, t'imagines, il a réuni tout le monde sur un seul plateau, et après avoir dit Bismillah Rabbul Ghulam, au nom du Seigneur, maître du jeune homme, et qu'il a tiré, il a enfin réussi à le tuer. Donc tout dépendait de quoi? Bismillah. Les gens, ils ont vu que Bismillah, ça donnait ce résultat, ils ont dit, nous croyons au Seigneur et maître du jeune homme. Tout le monde a cru, tout le monde. Et c'est de ça qu'avait peur le roi. C'est pour ça qu'il voulait les tuer, ces trois. Ils ont tous dit, nous croyons au Seigneur et maître du jeune homme. On va dire au roi, qu'est-ce que tu dis de ce que tu craignais? Par Dieu, te voilà donc atteint de l'objet de ta crainte. Et voilà que ton peuple a cru à Dieu. Il ordonna de creuser des fossés, plein de fossés, à l'entrée de chaque route. On les creusa et on y alluma le feu. Il a creusé des fossés et il a allumé des feux dans ces fossés-là. Le roi dit, jetez-y tous ceux qui ne veulent pas renier leur foi. Et c'est ce qu'ils firent. Ils ont commencé à prendre les gens un par un. Et les gens, entre renier leur foi et aller au paradis martyr, ils ont directement préféré le martyr que de mourir apostat, kafir, et aller en enfer. Et jusqu'à ce que vint une femme avec son petit. Maintenant, il y a une femme qui arrive avec son bébé, et là, c'est un problème. Les mamans qui sont présentes, ou qui vont nous entendre après, ils savent très bien qu'un bébé, c'est quelque chose. Je peux pas me jeter dans le feu facilement avec lui, sauf si j'ai une foi à une montagne. C'est pas évident, c'est vrai ou c'est pas vrai? Jusqu'à ce que vint une femme avec son petit, elle eut peur et refusa de se jeter dans le feu. Elle a dit, bon, puisque je peux pas, ça me fait, voilà, mon bébé, il me fait de la peine. Si c'est le feu, je peux pas. Allah Azza wa Jal a fait un miracle, a fait descendre un grand miracle sur cette maman-là. Il a fait parler le bébé. Et il y en a plein des bébés qui ont parlé, pas que Isa alayhi salam. D'ailleurs, on pourrait même en faire un cours. Il y en a 6 à peu près, des bébés qui ont parlé. Son enfant lui dit, mère, patiente car tu es sur la juste voie, rapporté par Muslim. Là, le hadith, il se termine. C'est une belle histoire et il y a énormément de leçons, et il est fort possible que ces leçons-là, on les voit en 2 fois, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam consolait, réconfortait ses compagnons en leur racontant des histoires de gens qui avaient la foi et comment ces gens-là avaient enduré face aux grandes épreuves afin qu'eux-mêmes endurent face à Quraysh. Il leur montrait des exemples de gens qui avaient patienté pour qu'ils patientent face à Quraysh, qui leur avait fait subir ce que personne n'a subi. Parmi ceux qui ont subi les musulmans de Quraysh, on a qui les allongeaient par terre en pleine canicule, sur le sol, afin que leur dos y brûle. Vous imaginez? On te pose par terre, en pleine canicule, et bien sûr, torse nu, et voilà, ton dos y brûle. Ça fait partie de ce qu'ils ont goûté, les compagnons. Parmi ce qu'ils ont goûté aussi, comme Bilal, radiallahu anhu, on ramenait un grand rocher qu'on posait sur son ventre. Et on le laissait comme ça, en pleine canicule, sur les routes de la Mecque. Et bien sûr, plusieurs d'entre eux ont été tués, comme Yasser, le père d'Ammar, Soumaya, sa mère, et beaucoup d'autres. Nous, ce qu'on doit faire aussi avec nos proches, nos familles, nos enfants, c'est de leur raconter ces histoires afin qu'ils trouvent des exemples et qu'ils voient comment étaient nos ancêtres. De cette belle histoire qu'on a vue ensemble, on peut tirer plusieurs grandes leçons et plein de commentaires. Voyons cela ensemble. De ce premier paragraphe, jadis vivait un roi qui avait un sorcier. Quand le sorcier se sentit vieillir, il dit au roi, me voilà maintenant âgé, envoie-moi donc un jeune homme afin que je lui enseigne la magie. Première leçon, on en a 3 dans cette phrase. 3. C'est que, en règle générale, ce roi-là, c'était le gouverneur. La majorité aujourd'hui des gouverneurs prennent tout le temps des sorciers comme confident pour mêler le faux à la vérité et cacher la vérité. Regardez cette étude, mes chers frères et sœurs. Une étude terrible, je ne vais pas citer de quel pays elle vient, parce que les gens ils comprennent mal. Quand on leur dit ça, ça vient de tel pays, ils pensent que c'est une critique. Ce n'est pas une critique. C'est pour ça que je ne citerai pas d'où ça vient cette parole. Mais c'est une parole sûre, confirmée. Cette étude terrible faite dans les pays arabes qui définit que les gouverneurs ne sont pas responsables. Cette étude dit qu'il existe dans les pays arabes seulement 250 000 voyants et visionnaires. Des charlatans, des sorciers. Seulement 250 000. Vous savez combien ils détournent d'argent par an, ces gens-là ? 5 milliards de dollars. 55% de leur clientèle, c'est des femmes. 24% parmi elles sont universitaires. C'est-à-dire que ce n'est pas des bahloulas, des filles qui comprennent rien. Non, ils ont étudié, ils connaissent. Et malgré ça, ils vont voir des sorciers, des charlatans. La vérité que se cache derrière la sorcellerie, c'est quoi ? C'est de présenter les mensonges comme une vérité et mêler le faux à la vérité afin de cacher celle-ci et atteindre un but précis qui est de changer la cause de l'homme, d'un messager à un consommateur. Ça, c'est la vérité de la sorcellerie. L'homme, au lieu d'être un porteur de message, ça devient un consommateur. Leur but à ces sorciers, c'est d'amener les gens à vivre pour travailler plus, gagner plus, se marier, consommer, construire une belle maison, avoir une belle voiture, et c'est comme ça qu'on fait partie des bons citoyens, selon eux. Cette classe de la collision, gouverneurs et magiciens, utilise des notions pleines de secrets, de mensonges et de trahisons. Les sorciers de ce siècle sont bien nombreux et organisés. Bien nombreux et organisés. Un, parmi ces sorciers-là qui manipulent les gens aujourd'hui et qui montrent le faux, vrai, vrai, faux, un, les grands orateurs intelligents et malins spécialisés pour mêler le faux à la vérité et cacher la vérité. Pour cela, le prophète Hassan nous avertit de la magie de la déclaration. قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحر رواه أحمد وأبو داود. L'éloquence est telle qu'elle tire à la magie. Ceux qui parlent super bien et trompent les gens. Il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils prennent le microphone et ils parlent tellement bien qu'ils arrivent à tromper les gens. Deuxième type de sorcier. Télé, médias, radio, journaux, satellites. C'est vrai, c'est pas vrai. La télé, les clips, ça ensorcelle pas les gens ? Les gens ne sont pas tout le temps devant des émissions ? Les médias, ils ne nous montrent pas ce qu'ils veulent de l'islam, l'image qu'ils veulent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même quand ils font une interview gentille avec quelqu'un, à la fin, ils disent ce qu'ils veulent. Des sorciers. La télé, pareil. La télé, combien ça a ensorcelé des gens? Il y a des gens, wallah, il rentre du travail, il allume la télé, il reste jusqu'à minuit. Il me dit, film sur film, DVD sur DVD, il fait que ça. Il n'est pas ensorcelé, lui? Celui qui est toute la journée en train de suivre les modes, comment il habille le chanteur qu'il aime et comment il marche, comment il parle, etc. Il s'est fait ensorceler. Tout ça, c'est une nouvelle sorcellerie, bien sûr, qui est très très bien cachée et bien déguisée. Troisième type de sorcier, l'éducation et la culture. Quatrième type de sorcier, le sport. Le foot. Vendre une personne, un joueur pour 250 000 euros, c'est pas de la sorcellerie ? Arriver à un stade où le joueur il vaut telle et telle somme, c'est de la sorcellerie ou c'est pas de la sorcellerie? L'amour des gens qu'ils ont pour le foot, ils les ont pas ensorcelés? Un Marocain par exemple, il est marié avec une Algérienne, il y a un match, l'Algérie-Maroc. Il peut pas y avoir un divorce cette soirée-là? C'est ça la sorcellerie. Ça divise entre l'homme et sa femme. De la sorcellerie, mais comme je vous ai dit, très 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 bien déguisée. Cinquième type de sorcier, et ceux-là c'est les plus dangereux, c'est les ulama. Quoi ? Oui, les ulama qui transforment la religion à la passion des gouverneurs, qui font de leur dîn, de leur religion, un fonds de commerce, un moyen avec lequel ils vont gagner de l'argent. Ils vendent la religion d'Allah pour de l'argent. Ils changent les paroles d'Allah et cachent la vérité. Ces ulama, Allah les a avertis en leur disant, dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 41, et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix, et c'est moi que vous devez craindre. Et dans Surat Al-Baqarah, verset 42, et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Hélas, aujourd'hui, on a des ulama qui sont au service de leur État et qui disent n'importe quoi juste pour satisfaire leur gouverneur. juste pour ça. Ils sont prêts à vendre leur dîme. Plus de principe, plus de la parole d'Allah avant la satisfaction de n'importe qui. Les gouverneurs injustes détruisent la conscience de leur peuple dès leur jeune âge, comme ce roi. Ils transforment les jeunes en sorciers. Et ils propagent la magie, l'ignorance et le mal. Mais attention, à ne pas comprendre de ces paroles-là qu'il faut lever les armes et se retourner contre les gouverneurs. C'est pas ce qui est sous-entendu de ces paroles-là. Pas du tout, faut pas comprendre ça. Il y a plus de mal que de bien à faire ça. Aucune maslaha. Deuxième leçon très importante de ce hadith-là, vous savez c'est quoi ? C'est le statut du sorcier dans l'islam. Les gens, ils pensent que le sorcier, voilà, c'est quelqu'un juste, voilà, c'est quelqu'un pas bien, et c'est tout. Stop, ça s'arrête là. Un sorcier dans l'islam, c'est une catastrophe. Une catastrophe. اختلف العلماء في كفر الساحر فمنهم من كفره مطلقا كالإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن عمر وحفصة وأبو موسى الأشعري وقيس بن سعد ومنهم من فصل كالشافعي رحمه الله فمن كان سحره متضمنا كفر كفر وإلا فلا يكفر إلا أن يستحله ومن أنواع الكفر التي يكفر بها التقرب إلى الشياطين والذبح لهم والاستغاثة والاستعاذة بهم والاستهانة بالمصحف أو ببعض آيات القرآن والعياذ بالله. Le statut du sorcier. La majorité des savants le considèrent comme mécréant. Celui qui fait de la sorcellerie, il n'est pas considéré musulman par la majorité, à part l'imam Shafi'i qui lui donne plus d'informations et des détails. Il dit, si sa sorcellerie contient de la mécréance, il est mécréant. Sinon, non. Et à titre d'info, le sorcier, il arrive à au statut de sorcier, vous savez comment ? En reniant sa religion. Parce que un sorcier, c'est quoi au final ? C'est quelqu'un qui a un contact avec des djinns, des démons. Et pour avoir ce contact avec les djinns, les démons, les djinns ne parlent avec lui, ne communiquent avec lui que s'il renie sa religion. C'est-à-dire qu'il insulte le Coran, qu'il insulte les paroles d'Allah, qu'il urine sur le Coran et qu'il s'essuie avec le Coran. Faire ça, bien sûr, sans doute, c'est de la mécréance pure. Pur et dur. Et bien, à partir du moment où il mécroit en Dieu, là le djinn il lui dit, je suis à votre service monsieur, que me demandez-vous ? Tu vois ? Donc, si il sacrifie pour un djinn, pas pour Allah, une bête, il est sorti de l'islam. Si il demande secours au djinn, il est sorti de l'islam. Si il demande protection au djinn, il est sorti de l'islam. Si il essaye de se rapprocher d'eux, de leur amour, en faisant des choses qui font sortir de l'islam, il n'est plus musulman. Et bien sûr, l'humiliation du Qur'an, ça c'est très 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 grave. Ça c'est le statut du sorcier. C'est que la majorité le considère comme non musulman. Maintenant, ceux qui vont voir le sorcier pour lui poser des questions. Je veux savoir, ma femme là, elle va voir une fille ou un garçon ? Elle est enceinte. Ceux qui vont voir les sorciers pour savoir le futur, etc., ces choses-là, que les djinns apporte, yani c'est les djinns qui les informent de cette chose-là avec une information vraie et sans mensonge, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Pas croire que les sorciers, toutes leurs paroles sont vraies. Même s'ils arrivent à dire des trucs vrais, c'est mêlé à une centaine de choses fausses. Ceux qui vont voir les sorciers, qu'ils sachent, 1. Que la sorcellerie fait partie des 7 péchés fatals. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith que rapporte Bukhari et Muslim, évitez les 7 péchés fatals. Shirk billah, l'association. Le plus grand péché. Et ce péché-là, c'est pas un péché qui garde ton état musulman. Ça annule l'islam. Le shirk, l'association à Allah, ça annule l'islam. Deuxième chose, la magie. Pareil, ça annule l'islam. Troisième grand péché, l'homicide interdit. C'est de tuer quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est interdit, sauf sous le couvert de la loi. Ça fait pas sortir de l'islam, mais c'est un grand péché. Walaykoum salam. Quatrième grand péché, l'usure. Les intérêts. L'usure. Ça fait pas sortir de l'islam, c'est un grand péché. Cinquième grand péché, l'atteinte au bien des orphelins. Pareil, ça fait pas sortir de l'islam, mais ça fait partie des kabair, des grands péchés. Et six, la fuite en pleine bataille, grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam. Et sept, l'accusation injuste des femmes vertueuses et croyantes. Que t'accuses une femme pieuse de, voilà, fornicatrice. Comme on voit aujourd'hui, c'est trop facile, les jeunes, comment ils disent, elle est sortie avec un tel. Peut-être qu'elle a demandé juste une information dans la rue, ça y est, elle sort avec lui, elle a fait ça et ça et ça et avec lui. Ça fait partie des kabair, des grands péchés, d'accuser une femme de commettre l'adultère comme ça. Ensuite, dans un hadith que rapporte Muslim dans son recueil authentique, il cite que certaines des épouses du prophète sallam ont dit que le prophète sallam a dit: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. Quiconque va voir un devin et croit à ce qu'il dit, il aura ses prières rejetées pendant 40 jours. Ça, c'est le premier hadith. Ensuite, dans un autre hadith, من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Quiconque va voir un devin et croit à ce qu'il dit aura commis le blasphème, reniant ce qui a été révélé à Muhammad, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Vous imaginez? Celui qui va voir un sorcier ou un devin pour poser des questions, et il pose pas des questions juste pour savoir son état, est-ce que c'est vraiment un sorcier ou pas, parce que là bien sûr c'est une autre chose. Quelqu'un qui va voir un sorcier, qui lui pose des questions pour savoir est-ce que c'est un vrai sorcier ou un menteur, il rentre pas dans ce hadith, parce que peut-être son intention c'est de changer le mal, c'est de l'appeler à faire du bien, tu vois. Mais celui qui va pour poser une question et il s'assoit et il le croit, et ben là le prophète me dit il a renié la religion du prophète sallam. Vous imaginez, il est considéré comme kafir. Ça, c'est ce qui est sorti du hadith. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Abu Dawud. Dans un hadith d'Imran ibn al-Husayn, radiallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Dans ce hadith, le prophète s'en dit, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Celui qui fait consulter le sort. Consulter le sort. Vous savez c'est quoi? Non, vous n'avez pas d'idée? Et celui qui se le fait faire. Consulter le sort, avant les Arabes, avant de faire une chose, il prenait un oiseau, il va par exemple voyager, il veut savoir est-ce que ce voyage, ça sera quelque chose de bien ou de mal. Où il va faire un commerce. Est-ce que ce commerce, il est bien ou pas bien? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Nous, dans notre religion, qu'est-ce qu'on a qui remplace cet oiseau-là? Al-istikhara, salat al-istikhara, la prière de consultation. Il prenait alors un oiseau et il le faisait voler dans le ciel. Si l'oiseau, il partait à droite, c'était un bon signe. C'est bon, je commence mon commerce. Et si l'oiseau, il va à gauche, c'est un mauvais signe. Et le prophète, sallam, il dit, celui qui consulte le sort avec, que ce soit un oiseau ou autre, il ne fait pas partie de nous. Et dans un autre hadith, At-tatayyur shirk, dans son Nabi Dawoud, c'est interdit, c'est haram de consulter autre qu'Allah Azzawajal. Qui connaît le futur à part Allah? Qui connaît le destin à part Allah Azzawajal? Les oiseaux? Donc ne consultez pas le sort. Et aujourd'hui, on a plusieurs manières de voir ça. Wallah al-Azim, on en a plein. En plus de ça, il faut que la personne sache qu'il ne nous arrive tout le temps que ce qu'Allah Azzawajal nous a écrit. Comme l'a dit le prophète sallam ibn Abbas radiyallahu anhu dans le hadith que rapporte l'imam al-Tirmidhi, wa'alam anna al-umma law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay' qad katabahu Allah lak. Si la communauté se réunissait pour te faire un bien et qu'Allah ne l'a pas écrit, ils n'y parviendront pas. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay' lam yadurruka illa bi shay' qad katabahu Allah 'alayk. Rufa'at al-aqlam wa jafat as-suhuf. Et s'ils se réunissent, toute la communauté, tous les gens, toute l'humanité se réunit pour te faire un mal qu'Allah n'a pas écrit, ils n'y parviendront pas. Donc, le destin, il est entre les mains de qui? Allah. Donc, celui qui consulte le sort avec un oiseau ou autre, ou qui se le fait consulter, il ne fait pas partie de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prédit l'avenir, ou se le fait prédire, ça aussi, c'est haram. Et celui qui fait de la magie. Et bien sûr, celui qui prédit l'avenir, aujourd'hui, on a plein de musulmans qui ont des signes comme ça, pour eux, qui montrent que son avenir, il est bien ou pas bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, l'horoscope. Combien sont le nombre de musulmans quand ils rentrent à l'école, ils ouvrent l'horoscope et ils disent, regarde, lis, s'il te plaît, balance, lis. Balance. Oh, c'est chaud, en plus j'ai un contrôle. Ah, donc ça y est, c'est mort. Il n'y en a pas des musulmans qui font ça? Oui ou non? Il y en a. C'est haram ça. C'est haram. Ce petit bout de papier là fait par les êtres humains, il connaît l'avenir, il connaît le destin. Ça va pas? Pareil, les magiciens. Tu vas voir un magicien et tu lui dis, ouais, s'il te plaît, voilà, dis-moi, pour ma femme, c'est une fille ou un garçon? Normalement, l'accouchement, c'est quelle date exactement? Et donne des dates. Tout ça, c'est haram. C'est haram. Pareil, tu sais, tout ça rentre dedans, la chance, le hasard. Ces mots-là aussi, il faut les éviter, il faut les enlever. Il n'y a pas de chance, à part ce qu'Allah Azzajal t'a écrit. Chance, hasard, comme par hasard. Quel hasard? Hasard, c'est une chose qui n'a pas été calculée. Allah Azzajal a tout calculé. Il a écrit la vie de tous les êtres humains, comme dans le hadith de Musnad Ahmad, sur Ibn Omar, 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, tout était déjà écrit. Jusqu'à la fin des temps. Tout ça, c'était écrit. Et toi, tu me dis, hasard, ça vient d'où ce mot-là? Nous, on ne connaît pas. Nous, on connaît Al-Qadr, pas l'hasard. Pareil, on a, comme je vous ai dit, les gens qui voient des signes mauvais partout, là, hein, qui consultent le sort, qui voient des mauvais signes. Ça, c'est ce qu'on rentre dans At-Tatayur, hein, le mauvais augure. Quelqu'un, il voit des claquettes retournées, il dit, attends, non, 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 ça porte malheur, retournez vite. Hein. Ou quelqu'un, il est allongé par terre, tu passes sur son ventre, il dit, ah, ma femme n'aura plus d'enfants. Tu comprends pas la débilité, mon frère. Ils sont arrivés à des trucs où tu marches dans la rue, il y a un escabeau, tu passes en dessous de l'escalier. T'es passé en dessous de l'escalier, repasse, refais marche arrière, vite, vite, vite. Ils voient des mauvais signes partout. Partout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Parmi les formes de mauvais augure qui persistent encore, le pessimisme tiré de certains nombres. Il y a des gens, même, ils voient des signes derrière des nombres. Et on vous a dit, on ne voit pas, non, on ne fait pas sortir des signes comme ça de n'importe où, à part par le Coran et la Sunna. Hein? Par exemple, je vois un lion qui arrive, clair et net, qu'il y a un signe de danger. Hein? Ça n'y a pas de doute, je ne veux pas demander un texte. Mais par contre, quelqu'un qui dit, ah, demain c'est vendredi 13. Il voit des signes dans les chiffres. Hein? Comme les chrétiens le voient dans le vendredi 13 et les bédouins dans le chiffre 7. Pareil, ceux qui voient le corbeau ou le hibou, il y a des gens, dès qu'ils voient un corbeau noir ou un hibou, ils disent, c'est un mauvais signe, il va t'arriver un mal. Ça vient d'où ça? Hein? Ou quelqu'un, il se lève le matin, il voit un borgne ou un aveugle, oh là là, ou sa belle-mère, ça y est, c'est fini, ta journée elle est catastrophique. Dites-moi, ça vient d'où? Ou il voit un serpent, ou un chat noir, ou un singe, ou un chien noir. Il voit des mauvais signes partout. Non, les frères, non, le cri du corbeau, hein, tout ça... Tout ça, c'est haram de penser de cette manière-là. Oui? Le chien noir. Il y a un hadith dessus, que c'est un shaitan. Ouais, le chien noir. Mais c'est pas notre thème. Juste, je suis en train de dire que faut pas que tu vois des signes comme ça, tu te les inventes partout. Le corbeau, le hibou et tout ça. Sachez que les bons signes, ni les bons signes, ni les mauvais signes font quelque chose. Et c'est Allah Azzajal qui fait tout. Le prophète Azzajal a dit At-tiyara shirk. Il a dit le mauvais présage. Tout ce qui est mauvais signe, tout ça, ou même que tu vois des bons signes dans certaines choses, il a dit ça, c'est du shirk billah. C'est de l'association. Hein? Dans Sunan Abi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith, il a dit, mettez les oiseaux à leur place. Ça veut dire, ne vous occupez pas des oiseaux, mais contentez-vous de reconnaître leur rôle naturel, car ils ne peuvent ni apporter profit, ni causer préjudice. C'est ça, tout simplement. Il y a des gens, ils voient par exemple des oiseaux, ils voient des signes dans tout. Dans tout, ils voient un signe. Oh, c'est un signe. Oh, c'est un signe. Tu me ramènes des signes de tous les sens. Non. Taïb, le remède à ça, c'est quoi? At-tatayur. De voir des signes partout, c'est quoi? Un, faire confiance à Allah. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Surat al-Furqan, surat 25, verset 58. Deux, savoir que tout est facile par rapport à la puissance d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah est capable de tout. Trois, solliciter l'assistance divine pour le bon choix. Faire salat l'istikhara. Voilà, nous ça remplace toutes ces bêtises qu'on voit aujourd'hui. La prière de consultation. Donc, on voit que dans ce hadith là, le sahir, chez la majorité des savants, il est considéré comme kafir, et qu'aller voir un sorcier, c'est aussi du kufr. C'est très très grave. Et on voit aussi que ce sorcier là a voulu faire hériter sa science à quelqu'un. Ça y est, je suis vieux, je suis âgé, maintenant il faut que je m'en débarrasse de cette science, je la donne à quelqu'un. Sinon, il n'y aura plus de sorciers. Et le prophète, en salam, il dit dans un hadith que rapporte Muslim Ahmad al-Tirmidhi al-Nasai, وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِذْرَهَا وَوِذْرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصْ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ. Subhanallah. Quiconque appelle quelqu'un à faire un mal, tu l'as appris à faire un mal, la sorcellerie. Lui, il aura des péchés. Toi, non seulement tu as les péchés de ta sorcellerie, mais tu as les péchés de celui à qui tu l'as enseigné. Si lui l'enseigne à quelqu'un, tu auras tes péchés, ses péchés et les péchés à celui qui l'a enseigné. Et ça devient une chaîne. Et ça, exposez-le devant tous les péchés qu'on voit aujourd'hui. Combien sont le nombre de jeunes qui apprennent des insultes aux gens? Et après, ça se fait répéter. Et tout ça, c'est dans son compte de péché. T'imagines? C'est-à-dire, non, ça ne lui suffit pas, lui, de prendre des péchés. Il faut qu'il en ramène aux autres aussi. Il sort avec une fille, il aime trop son pote, il va essayer de lui trouver la copine de sa meuf. Ça se fait pas pour mon pote, il faut bien qu'il profite lui aussi. Tout ce qu'il va faire avec elle, c'est dans ton compte de péché. Et ça se propage. Fume, vas-y, tire une latte. Roule. Ah oui, t'attends quoi, mon frère? On est au lycée, là. Subhanallah, je fume du shit depuis 12 ans. T'es en retard, là. T'as pas encore pris le train. Tout ça, c'est dans ton compte de péché. Et l'inverse. Quand t'apprends à quelqu'un de lire le Qur'an, tu lui apprends, par exemple, les lettres de l'alphabet pour qu'il puisse lire. Et après, alhamdoulilah, avec un certain temps, il a réussi à lire le Coran. Tu vois? Il a réussi à lire plein de choses. Tous les hadiths que tu vas lire en arabe et tous les versets que tu vas lire, tout ça, c'est dans le compte de Hassanet, de celui qui t'a enseigné. Et si toi, après avoir appris ça, tu l'enseignes à quelqu'un, toi et ton élève, vous êtes dans le compte des Hassanet de ton prof, et ainsi de suite. Et vous imaginez le prophète sallam, tous les Hassanet qu'il a, c'est lui qui nous a tout enseigné. Tout ça, ça revient à lui. Tout ce khir, cette chaîne là, elle remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième leçon, toujours de la première ligne, espérons qu'on va réussir au moins à faire 5 lignes. Le sorcier a choisi un jeune, pas un vieux. Pourquoi? Qui peut me répondre? Oh, il n'a pas choisi un vieux. Quelqu'un de, voilà, 40, 30 ans, il choisit un jeune. Pourquoi? Pas vraiment ça, oui? Barakallahu fik. Le jeune, il apprend plus facilement que la personne âgée. Pourquoi? Le jeune, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Rien. C'est pour ça, il remplit sa tête de PlayStation, jeux vidéo, tout ça. Il a rien dans la tête, c'est un cerveau vide. Un cerveau vide. Il a rien. Il pense pas à des dépenses, il pense pas à payer le loyer, ni rien du tout. Il a rien dans la tête, pas de problème. Donc pour lui, le cerveau, comme il est tout frais, tout propre, il peut apprendre beaucoup plus vite. Et ce qu'il apprend quand il est petit, ça reste. Comme le disent les ulama, ils disent Al-ilmu fi sirar kan-naqsha 'ala al-hajar. Tu vois, le fait d'apprendre quand t'es jeune, c'est comme si t'écrivais sur un rocher. Quand tu graves quelque chose sur un rocher, ça s'efface du rocher? Non. Wa al-ilm fil kibar? Quel? Quoi? Personne ne sait? Kan naqsha 'ala al-ma. Et quand tu apprends quand tu es grand, c'est comme si tu avais écrit sur de l'eau. C'est pour ça la période de la jeunesse, elle est très 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 importante. Tout cela, on doit sentir la responsabilité de cette religion, l'obligation d'apprendre la religion, apprendre l'arabe, le Coran, assister à des durous, appeler les jeunes à se khir. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah il m'a fait aimer la mosquée. Pourquoi je n'amène pas les jeunes qui sont autour de moi? Pourquoi je ne les fais pas profiter des rappels d'Allah? Ça fait toujours du bien. Et hélas, on ne fait pas assez profiter les gens. Le jeune apprend plus rapidement que le plus âgé, comme vous le savez. Donc, le roi, il a amené à ce sorcier-là, ce petit jeune homme-là. Mais Allah Azzawajal voulut le bien de ce jeune. Tu peux vouloir ce que tu veux et tu peux faire tous les plans que tu veux, tant qu'Allah Azzawajal n'a pas écrit cette chose, ça ne se fera pas. On a vraiment besoin, nous aussi, aujourd'hui, d'éduquer nos enfants au Coran et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de les faire aimer Allah et son prophète, afin qu'ils grandissent loin des péchés. On a besoin de ça, de leur apprendre la vie des prophètes, et surtout la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des compagnons. Kana ba'd as-salaf as-salih yaqulun kunna nu'allim awladana as-siyar wal-maghazi kama kunna nu'allimuhum as-sura min al-Qur'an. Les pieux prédécesseurs disaient, on apprenait à nos enfants la conduite, la vie des pieux, leur comportement, leur expédition et leur bataille comme on leur enseignait le Coran. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Tom et Jerry, Tintin et Milo, ma sorcière bien-aimée. C'est ça. Le petit, il connaît que ça. Que les trucs n'importe quoi. Et après, tu vois, quand il grandit, comme il n'a pas eu d'exemple de bonhomme comme ces gens-là, il suffit qu'à l'âge de 25 ans, t'éteins la lumière pour qu'il crie au secours. Tu vois, j'exagère un petit peu, mais c'est... Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'être éduqués, l'éducation de Sahaba. Le jeune a donc été amené par le roi pour apprendre la sorcellerie de ce sorcier, mais Allah Azzawajal avait décidé de faire de lui un croyant et pas n'importe lequel. On voit donc qu'il ne se passe que ce qu'Allah Azzawajal a écrit. Que et seulement ça. Le jeune homme, sur sa route, il a rencontré qui? En allant voir le sorcier. Un moine. Et les ulama disent que كان في طريقه إذا سلك راهب وهذا يدل على أن هذه الحادثة كانت بعد زمن المسيح عليه السلام لأن الرهبانية لم تظهر إلا في أتباعه ولكن يتضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الراهب كان موحدا لله عز وجل ولم يكن من أصحاب التخليف. Ce moine-là, il faisait partie de ceux qui ont suivi Isa عليه السلام. C'était donc un chrétien. Et ce n'était pas un chrétien qui croyait en la Trinité, le Père, le Fils et ce qu'on entend aujourd'hui. Donc, lui, c'était quelqu'un qui croyait en Dieu l'unique et il ne l'associait pas. Donc, c'était vraiment quelqu'un de confiance, un vrai adorateur. Ça, c'est la quatrième leçon. C'est que ce moine-là, et cette histoire, en fait, elle s'est passée à l'époque de Isa alayhi salam. Ensuite, cinquièmement, la vérité a un impact très fort. Parce que tu vois que le jeune, dès qu'il l'a écouté, ça lui a plu ce qu'il a dit. Entre écouter un sorcier et écouter quelqu'un qui adore Dieu l'unique, c'est clair que la saine nature, la fétra, elle va reconnaître directement ça. Elle va plutôt pencher vers ce que le moine dit. La vérité a un impact très fort dans les cœurs, mais pas n'importe quel cœur. Les cœurs des gens qui cherchent la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à avoir raison. On en a plein, des gens qui font des débats dans la religion, pas pour la vérité, pour qu'ils disent « j'ai le dernier mot ». Ah, t'as vu comment je te l'ai mis à côté de la plaque ? Il dit qu'il connaît quelque chose, lui, il connaît rien du tout. Et ça, c'est haram, ça. Si t'apprends la science dans ce but, dans cet objectif, c'est grave, ça fait partie des grands péchés. Tu peux finir en enfer. Si c'est ça, la cause de ton apprentissage de science, c'est de pouvoir parler avec les savants, débattre avec eux, et d'avoir toujours raison, et d'avoir le dernier mot avec les gens qui sont ignorants. Sache que tu es dans le mauvais chemin. Change ton intention. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Subhanallah, al-haq lahu quwwa. Sixième et septième leçon, tirée du paragraphe qui arrive, c'est qu'à chaque fois qu'il allait chez le sorcier, il faisait la même chose. Il allait se rendre auprès du moine. Il l'écoutait, il apprenait de lui. Et il s'est fait frapper pour son retard. On a deux leçons dans cette phrase. La première leçon, l'attachement au jeûne à la demande de la science. C'est très important que les jeunes aujourd'hui accordent de l'importance à la science et d'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que rapporte l'imam al-Bayhaqi, talabul ilm farida ala kulli muslim. Quérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Beaucoup de musulmans pensent qu'en faisant la prière, jeûnant, respectant les parents, les voisins, etc., ça suffit. T'as fait les obligations, alhamdoulilah. La demande de science est obligatoire. Tu es un messager sur terre, pas un consommateur. Tu es un messager, tu as un message à transporter et à diffuser. C'est pour ça que pour ce message là il faut que tu apprennes. Si quelqu'un aujourd'hui te pose une question compliquée et que tu ne sais pas répondre, il est possible que tu aies le doute et que tu lâches la religion. On en a vu des jeunes comme ça qui ont eu plein de doutes pour des questions très simples. Très simple, ils disent, oh c'est injuste, la femme en islam elle a le droit à un seul héritage et l'homme il a deux parts. Comment ça se fait, vous favorisez l'homme à la femme? Celui qui ne sait pas répondre à ça, qu'est-ce qu'il répond? Comment ça se fait, votre prophète il se marie avec une femme, dans le Coran il y a écrit 4? Tu ne sais pas répondre à ça, tu fais quoi? Dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallam il a dit à des gens qui sont venus malades, allez boire des urines de chameau. Franchement, vous en pensez quoi de ça? C'est quoi cette religion qui dit aller boire? Si tu sais pas répondre à tout ça et que tu connais rien dans la religion, non seulement toi t'as pas l'yaqin, t'as pas cette certitude solide, en plus de ça tu pourras pas appeler au message, tu pourras pas diffuser ce message. Il faut que tu t'armes de science, il faut que t'apprennes la religion. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر verset 9, il dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Dit, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Bien sûr que non. Ceux qui savent, ils ont plusieurs degrés. Ibn Abbas, il dit, radiallahu anhu, il dit que celui qui, le savant, il a 700 degrés de plus que le croyant normal auprès d'Allah. Vous imaginez? Parmi les sciences religieuses, on a al-tawhid, la science de l'unicité. Tu dois savoir qui tu adores. Et après que tu connais qui tu adores, comment l'adorer? Al-fiqh, qui te permet de comprendre comment adorer, comment prier, comment jeûner, c'est quoi les erreurs dans les ablutions, etc., etc. Troisième chose, bien sûr, après c'est le contact avec ton Coran, le tajwid, les règles de lecture de Coran. Il faut apprendre les règles de lecture de Coran. Quatrième chose, le hadith, la science de la parole prophétique. Cinquième, usul al-fiqh, les fondements. Donc, talab al-ilm, c'est obligatoire. La demande de science pour chaque jeune est obligatoire. Celui qui n'a pas encore mis ses pieds sur les rails de la science, qui commence, qui cherche dès maintenant un frère, qui lui enseigne l'arabe, qui est la base de tout, la base, l'alphabet. Ouais, mais c'est chiant, Dhamma, Kasra. Oui, patiente, c'est pas grave. Patiente, les années défilent. Et tu vas voir que ceux qui commencent, dans 2-3 ans, tu seras au même stade et eux, ils auront avancé. Donc, il ne faut pas voir cette chose-là maintenant. Et il faut patienter dans l'ilm. Pensez pas que c'est facile. Deuxième grande leçon, c'est que le sorcier a frappé pour son retard. Les gens qui sont dans le faux, dans l'égarement, dans l'erreur, ils font attention au retard. Et les musulmans, ils font pas attention au retard. C'est pas la honte, ça. Jusqu'aujourd'hui, on a même des proverbes qui disent, tu vas me donner un rendez-vous. Ok, quelle heure? 5h? 5h arabe ou français? Pour pas dire d'autres pays, pour préciser bien, parce qu'il y a des pays spécialistes dans les rendez-vous. Quand tu sais que ça vient de lui, s'il dit 5h, faut venir à 10h du soir. Et tu l'attends. Non, faut faire très attention. Le sorcier fait attention au retard. Et nous, on fait pas attention au retard. Huitième leçon. C'est qu'il s'en plaignit au moine. Quand il s'est fait frapper par la sorcière, il est parti se plaindre au moine. Et ça, c'est très important d'avoir une personne de confiance que tu connais, envers qui tu peux aller te plaindre, prendre des conseils, poser des questions. Un savant, un talib ilm, quelqu'un de confiance qui est connu pour sa science, qui est connu pour faire des recherches, tu dois avoir une personne autour de toi, un numéro dans ton portable d'une personne comme ça. J'ai une question dans la religion, je la pose à qui? Je laisse normal, je la laisse traîner dans ma tête ou direct, allô? Ah, barakallahu fik, alhamdulillah, jazakallahu khair, etc. Il faut avoir dans ton portable quelqu'un, voilà, tu demandes quand tu sais pas. Comme Allah il a dit, fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens de rappel si vous n'avez pas de science. Et aujourd'hui, nos jeunes, ils ont des numéros de quoi dans leur portable? Là, ils sont en train de tourner la tête derrière. Ils ont des numéros de quoi? Ils ont des numéros de gens qui apprennent la science, des gens qui peuvent les renseigner, de savants, j'ai pas envie de dire. Je dis un agenda de noms de filles de toutes les origines. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux tout ça. Il faut que tu apprennes à poser des questions et à avoir dans ton portable une référence, une personne en qui tu fais confiance. Et cette personne, je vous demande, Ikhwani, quand tu écoutes sa parole, ne pense pas que sa parole aussi, c'est une révélation d'Allah. Elle est indiscutable. Parce qu'il y a beaucoup de divergences dans la religion. Il faut que tu aies toujours l'esprit ouvert à écouter l'inverse de ce que tu as écouté. Même ce que vous écoutez ici, là. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on est en train de dire, à 1000%, c'est vrai. Il se peut que ça soit à 80%, 90%, 70%. Donc garde l'esprit ouvert. Comme ça, si quelqu'un te parle, tu arrives à accueillir son information avec une poitrine large. Pas. Non. Notre savant là-bas, là. Et vous parlez de l'imbécile qui est assis devant vous. Non, faut pas faire ça. Faites très attention. Ne tombez pas dans cet extrême. Donc, avoir une référence. Neuvième leçon tirée du paragraphe d'après. Quand tu as peur du sorcier, dis-lui, tu as été retenu par ta famille. Et quand tu as peur de ta famille, dis-leur, tu as été retenu par le sorcier. Est-ce qu'il est permis au moine de faire ce qu'il a fait? Ici, c'est de le faire mentir. Il est autorisé de faire ça? C'est un mensonge ou c'est pas un mensonge? C'est un mensonge pour un bien, mais on va détailler un peu parce que sinon après c'est la porte ouverte. Les gens ils vont dire, ah, c'est un mensonge pour un bien. D'accord, allez hop, on est parti. قالت أم كلثوم رضي الله عنها ولم أسمعه أسمعه en parlant du prophète sallam يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. Le mensonge n'est autorisé que dans trois choses. Écoutez bien. في الحرب, dans la guerre, en temps de guerre, là t'as le droit de mentir. Deux, wal-islah bayna an-nas, pour réconcilier deux personnes. Lui, il est en embrouille avec son frère. Mais grave, hein, parce qu'il a refusé de lui donner 2 euros. Ils sont grave en embrouille. Et moi, j'interviens au milieu et je dis au frère, mais pourquoi tu parles pas à ton frère? Non. Alors attends, subhanallah, à chaque fois que j'ai de l'argent, je lui donne et lui, le jour où il a, non, c'est, je l'oublierai jamais celle-là. Mais c'est que 2 euros, non! Il rentre plus chez moi, son numéro, je l'efface en plus. Là, moi, j'ai le droit de mentir et de dire quoi? Est-ce que tu sais qu'il est parti t'acheter un cadeau là pour te réconcilier? Un cadeau? Avec tout ce que je lui dis comme insulte? Ouais, il a dit franchement c'est lui le fautif et il fallait qu'il te ramène un cadeau. Et après lui déjà je l'ai calmé un petit peu, tu vois. Et je vais voir l'autre, je lui dis, tu sais quoi, toi t'es encore toujours dans ton truc là, l'autre ça y est il a acheté le cadeau. Un cadeau de quoi? Ça y est il t'a acheté un cadeau et je te dirai même pas c'est quoi, machallah, il t'a ramené un truc, franchement... il veut à tout prix garder cette relation. Il a dit, depuis qu'on est petit, on se connaît, on va se lâcher pour 2 euros, quand même. 5 euros, ça se comprend, pas 2. Et après, lui, il commence à, tu vois, j'amadoue les deux et je commence à les calmer jusqu'à ce qu'après, avec ses mensonges, je les ai réconciliés. Ça, c'est halal. Franchement, Allah, c'est beau la religion de ce point de vue-là. Quand tu vois que la fraternité, on doit tout faire pour la sauver. Tout faire pour la sauver. Et aujourd'hui, on fait tout pour la démolir. On appelle les gens à se diviser, à s'appeler telle ou telle ou telle appellation, à se sentir différent de tout le monde. Et quand tu pries dans la mosquée, il faut que tu saches lui prie où, c'est qui ses savants et qu'est-ce qu'il pense. Sinon, c'est chaud. Tu fréquentes. Non, c'est pas comme ça. Al-Asl, l'origine de l'être humain, même dans le Jarh al-Ta'dil, les savants du hadith disent que l'origine de la personne, c'est quoi? C'est qu'il est saint de tout grand péché, de toute innovation. Après, si il fait un péché ou une innovation, c'est là qu'on intervient, pas on fouille. Il y a même un chapitre dans Sahih al-Bukhari, l'interdiction de questionner son frère, l'interdiction de lui faire un interrogatoire. Vous imaginez? Donc, la guerre pour réconcilier deux personnes est hadith ar-rajul mar'atuhu. Et un homme qui vient et parle à sa femme ou l'inverse. L'homme, par exemple, il rentre et voilà, il voit sa femme, elle vient de sortir de la cuisine, elle sent l'oignon, elle sent l'ail, elle a les cheveux en pétard, elle est habillée avec des taches de tomates partout, lui dit, je t'ai jamais vu aussi belle. Tu vois? Ça, c'est un mensonge autorisé. Entre l'homme et la femme, c'est autorisé. Le hadith, il est rapporté par musulman. C'est un hadith authentique. Je ne suis pas en train de vous inventer quelque chose. Pareil pour la femme. Son mari, il dit une blague, mais qu'est-ce qu'elle est pas marrante. Une blague, tu as envie de te tirer une balle quand tu l'entends. Il dit, mashallah, franchement, t'es trop fort. Tu vois? Tout ça, c'est permis. Ça, c'est autorisé. Trois cas. C'est risqué, parce qu'après, ils vont en dire beaucoup. Oh, faut qu'ils freinent quand même. Pour la femme. Elle va faire un parfum d'ail et d'oignon, c'est ça? Elle va se parfumer avec tout le temps. Non, on dit, bien sûr, la femme, il faut qu'elle fasse attention à elle à la maison. L'homme, pareil. Hein. Ibn Abbas, radiallahu anhu, disait, j'aime m'embellir à la maison comme j'aime ma femme. Voir ma femme tout le temps belle. L'homme aussi, hein, c'est pas d'un seul côté. Tout le temps, dans la religion, c'est pour l'homme et la femme. On vise pas l'un sans l'autre, jamais. Donc, là en fait, ce jeune devait apprendre une science qui était obligatoire. Car la science est de deux types. Science obligatoire et science qui est pas une obligation individuelle, mais une obligation collective. Fardu'ain, fardu kifaya. Al-fardu'ain, l'obligation individuelle, c'est d'apprendre le tawhid, qui j'adore. C'est qui Allah? D'apprendre comment l'adorer, al-fiqh, al-ibadat. Et après, il y a des sciences qui ne sont pas forcément obligatoires, comme mustalah hadith, comme c'est ce qu'on appelle ulum al-ala. C'est des suppléments pour pouvoir comprendre les bases. Tu vois? Et ben toi, si tu as un obstacle devant cette science, qui est la science qui est Allah, et ben tu peux mentir, comme il a fait ce jeune, pour la bonne cause. Contraint, il était obligé de mentir. Sinon, il n'aurait pas appris qui est Allah. Là, le jeune, il avait juste une nature saine et il ne savait pas qui il fallait adorer. Il rencontre un moine qui peut lui transmettre le message. Et attention, c'est très très fin hein, ce mensonge. Hein. À ne pas généraliser. À ne pas se dire, ah, moi je suis dans ce cas. Vous avez entendu la règle générale. Après, le cas par cas, c'est allô, chir. C'est pas de vous-même. Hein. Moi, je suis en obligation, je suis en nécessité, je peux m'autoriser l'interdit. Ça ne nous appartient pas à nous. En tant que pauvre miskin, même pas on peut s'appeler talib ilm, mais ça appartient aux savants. Les savants, eux, disent, voilà, ton cas, oui ou non. Dixième leçon, c'est Allah Azzawajal, c'est qu'Allah Azzawajal fait toujours les causes qui permettent aux gens de trouver la vérité lorsqu'ils la cherchent sincèrement. Qu'est-ce qu'il a fait le jeune? Il a pris une pierre, il a dit à Allah, si l'œuvre du moine, et on voit qu'il a cité l'œuvre du moine avant celle du sorcier, parce que son cœur, il était attaché au moine, il l'a fait avancer. Si l'œuvre du moine t'es préféré à l'œuvre du sorcier, débarrasse-nous de cette bête. Et Allah Azzawajal, quand il voit une personne qui cherche la vérité, eh ben, il le guide vers ça. Qu'il soit sincère. Hein. Onzième leçon. Allah lui a éclairci la vérité, comme vous le voyez, car il l'a demandé sincèrement. Et dans notre religion, on a une prière qui s'appelle la prière de consultation. Salat al-istikhara. C'est quoi la prière de consultation? On n'en a jamais entendu parler de notre vie. En résumé, tu fais tes ablutions et tu vas faire deux rak'at, qui sont des sunnahs, d'accord? Une prière facultative qui n'est pas obligatoire, surrogatoire, avec l'intention de consulter Dieu sur ton affaire. Première chose, je vais faire un commerce je choisis une université, je sais pas si je prends celle-là ou celle-là. J'ai envie de faire telle ou telle chose, n'importe quelle chose dans ta vie marche avec la prière de consultation. T'as comment la faire? Je prépare l'intention qui est dans le cœur, qui ne se prononce pas, et je dis Allahu Akbar, deux rak'at. D'accord? Tu récites les sourates que tu veux. Après, la sunna, c'est de faire ce dua qui est très long, qui est dans la citadelle du musulman, et inshallah, je vous invite à lire et apprendre, surtout comme les compagnons ils disaient, qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna as-sura min al-Qur'an. Il nous apprenait le dua de la consultation comme il nous enseignait les versets du Qur'an. Apprenez ce dua et dites-le quand vous êtes prosterné avant de faire la salutation, donc dans la deuxième raka'a. Avant de faire salutation, tu fais le dua pendant que tu es prosterné. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Le moment où le serviteur est plus proche de son Seigneur, c'est quand il est prosterné. D'accord? Bon, je connais pas le dua, j'ai du mal avec l'arabe. Fais assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tu fais salam et après tu le lis du livre après la salat. D'accord? Ça c'est permis. Mais le mieux, on vous a dit quoi? C'est pendant que tu es en dialogue avec Allah de le faire. Tu comprends? Après, si tu ne peux pas, fais-le après en lisant le dua. Beaucoup de gens pensent qu'après ces deux rak'at, il faut aller dormir vite pour voir un rêve. Pour voir un rêve. Et le rêve, s'il montre une bonne chose, c'est que c'est un bon signe. Et là, par contre, tous les signes qui vont apparaître après la prière de consultation, c'est pas ce qui a été interdit tout à l'heure. Hein? Ça provient d'Allah, parce que tu as consulté Allah et il va te montrer un signe. D'accord? Soit un rêve, et c'est pas forcément un rêve, comme le pensent beaucoup. Pense qu'il n'y a que les rêves. Ah, j'ai vu un beau rêve. J'ai vu qu'en fait, je devais faire telle et telle et telle chose. Ça peut être un signe. Quoi comme signe? Je demande cette sœur, d'accord, en mariage. Et après, toc toc toc, salam alaikum ami. Voilà, je suis un tel, un tel, un tel. Je me présente, je viens demander votre fille. Fadal, mon frère, bien sûr, tel machin. Tu vois des facilités dans le mariage. Des facilités, tout s'accélère, tout se passe comme prévu, tout est bien, il n'y a pas d'obstacle. C'est que c'est un signe de satisfaction d'Allah. Tu vois qu'il y a trop de difficultés. Ah non, c'est pas possible, elle est déjà fiancée. Bon, déjà, ça c'est classé. Tu vois, elle est encore jeune. Elle a pas fini ses études. T'as quoi comme argent? T'as quoi comme diplôme? Non, il faut que tu travailles d'abord. Tu travailles, ah, faut que t'achètes un appart. T'as acheté l'appart, t'as quoi comme voiture? T'as acheté la voiture et que des obstacles sur obstacles sur obstacles. Après, il dit, bon, maintenant t'attends 5 ans. Ça fait trop d'obstacles. Tu vois, ça fait trop d'obstacles. C'est des signes. Vous comprenez? Subhanallah, une histoire vraiment personnelle. Ma propre sœur, une fois, il y a ses amis lui ont dit viens, on va au cinéma. Et ma sœur, elle n'est jamais partie au cinéma. Alhamdulillah. Elle a toujours détesté ces endroits. C'est pas un endroit franchement propre. Entre nous, hein, ce qu'on voit là-bas, c'est des gens, voilà, de deuxième classe, on va dire. Et ma sœur, une fois, ils lui ont pris la tête, ses copines, jusqu'à elle a dit, bon allez, pour une fois on va se lâcher. Après elle a dit, bon tiens, si je faisais une prière de consultation. Elle a fait salat l'estikhara. Et après salat l'estikhara, elle ouvre le tiroir pour prendre son voile et commence à le porter. Et elle voit une lettre. Une lettre qu'elle avait eue de sa copine il y avait 3 ans. Elle ouvre la lettre et la sœur lui fait un rappel que sur le temps, elle ne perd pas une seconde devant la télé, ni le cinéma, ni rien d'autre. Vous appelez ça quoi? Une réponse à la consultation. Elle n'est pas partie. Elle leur a raconté. Et à la fin, alhamdoulilah, ils sont tous pas partis. Elle les invite à la maison. Et la soirée, elle a fini à la maison proprement, tranquille, avec des paroles d'Allah et du prophète. Tu vois? Ça, c'est la prière de consultation. Pas nécessairement un rêve, un signe. Voilà, une lettre, n'importe, un message. Quelqu'un, il t'en parle, ou une info, ou n'importe quoi. Hein? Donc, si Allah te facilite cette chose, c'est qu'il y a un bien. S'il n'y a pas de facilité, c'est que c'est un mal. Et peut-être que tu vois pas toi ce mal à l'œil nu, tu te dis mais il est où le mal au final? Non, c'est pas possible que ce soit un mal, mais ça l'est. Deuxième leçon, quand il est venu voir, après ce jeune là, quand il est parti voir le moine, et il lui a dit, j'ai jeté la pierre, il m'est arrivé ça, il lui a dit, mon petit, tu es devenu maintenant plus fort que moi. Ça c'est le comportement et la modestie des savants. Ceux qui ont compris la religion, ils sont modestes. T'as vu, il l'a élevé à un degré. Il lui a dit, maintenant tu es devenu mieux que moi. Et ça, ça nous apprend qu'il faut être modeste. Et le prophète sallam dit, man tawada alillah rafa'a. Quiconque est modeste pour Allah, Allah l'élève. Ne t'enorgueille jamais par ta science, par ta famille, par ton argent, par tes vêtements, par ton statut, par tout ça, ne t'enorgueille jamais. Sache qu'au final, t'es rien du tout.
T'es rien. Au final, on est quoi? On est rien. On est des pauvres masakin. Sur une terre, on est de passage. Une terre éphémère. T'es là pour cueillir un petit peu de hasan. Beaucoup de hasanat, pas un peu. Parce qu'il faut, si je dis un peu, ils vont dire, ah d'accord, juste un peu. On prend tout au premier degré aujourd'hui. T'es là pour cueillir tes hasanat. T'es arrivé le jour du jugement avec un panier rempli de bonnes actions et pas l'inverse. En même temps, c'est une vérité. L'élève peut devenir meilleur que son professeur. Et c'est arrivé plusieurs fois, ça, dans l'histoire. Plusieurs fois, on voit un prof, il enseigne à son élève, et après, l'élève devient meilleur que le prof. Ça peut arriver. 13e leçon. L'épreuve fait partie de la vie. L'épreuve fait partie de la vie du croyant. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, puisque tu arrives à faire ce miracle, tu vas certainement être mis à l'épreuve. Ça fait partie de la vie. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah عز وجل dit qu'il a créé la vie et la mort pour nous éprouver, pour nous mettre à l'épreuve. Et dans sourate Al-Ankabut, le premier verset, قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Non, à partir du moment où tu as dit je crois, tu es croyant, tu crois à Allah Azza wa Jal, tu es mis à l'épreuve. Tu es mis à l'épreuve. Et l'épreuve, c'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jal, pas l'inverse. Et on a fait un cours sur la patience face aux épreuves, il a enregistré. Et le professeur m'a dit dans Sahih Bukhari, Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Quand Allah veut du bien à une personne, il lui prend ce qu'il a de plus cher. 14e leçon. C'est qu'Allah Azza wa Jal accorde à certains de ses saints des miracles. Comme lui, là, ce jeune-là, on voit qu'il a eu quoi comme miracle? Son invocation exaucée. Ad-du'a al-mustajab. Et ça, c'est arrivé aussi à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, un compagnon. Le prophète Sam, il lui a fait une invocation pour que son du'a devienne mustajab. Et après, les gens, ils venaient le voir, ils lui disaient, voilà, fais-moi des du'a pour telle et telle chose. Il levait les mains, il faisait du'a et l'invocation était exaucée. Et un jour, Sa'd ibn Abi Waqqas, il est devenu aveugle. Et son fils, il lui dit, tu fais des du'a pour tout le monde et toi, tu es aveugle. Fais-en pour qu'Allah il te rende ta vue. Il lui a dit, Qada Allah indi khayran li min basari. Subhanallah. Il lui a dit, ce qu'Allah m'a écrit, ça là, cette épreuve, vaut mieux pour moi que mes yeux, que ma vue. C'est Allah qui l'a voulu. C'est lui qui m'a fait ça. Je préfère ce qu'Allah veut que ce que je veux moi-même. Vous avez vu les degrés de foi? Et après, tu as des questions. Les compagnons, ils avaient quoi de plus que nous? Décalé de la tête. Ou plutôt, tu as de la sauce samouraï dans le cerveau. Donc, Allah lui a donné comme privilège d'avoir l'exaucement des invocations. Il ne faut surtout pas penser que c'est lui qui guérissait les gens de son propre chef, mais grâce à Allah Azza wa Jal. On voit aussi qu'après ce privilège, il est resté humble, modeste. Il n'a pas eu la grosse tête. Il n'a pas dit, maintenant j'ai des pouvoirs, maintenant je peux faire ce que je veux, maintenant allez, je vais faire moi aussi un château, je vais être un roi. Non, il est resté l'homme simple, jeune adorateur d'Allah Azza wa Jal. Il est resté humble, modeste. Et donc on voit que ça, c'est des miracles qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses saints serviteurs. 15e et 16e leçon tirée du paragraphe où ils ont fait venir le courtisan, le moine et le jeune. Ils les ont jetés en prison et ils ont dénoncé, en fait, chacun il a dénoncé l'autre. Ils ont ramené d'abord, qui vous rappelez? Le courtisan qui a dénoncé le jeune. Le jeune, il a dénoncé le moine. Le moine, il lui avait pas dit au début, n'informe personne où je suis, ne parle à personne de moi. Il lui a dit ou il lui a pas dit? Taïb, là maintenant, c'est pas une traîtrise là ce qu'il a fait le jeune? Il a dénoncé. Vous dites quoi de ça? En fait, tout simplement, c'est qu'il a été contraint. Il a été contraint. Dans ce paragraphe, on voit que celui qui est contraint de faire une chose haram, que ce soit un acte ou une parole, comme par exemple, quelqu'un il te met un couteau sous la gorge, il te dit insulte Allah. T'es contraint ou t'es pas contraint? Tu le fais en étant satisfait ou pas? Eh ben, si tu insultes Allah, tu n'es pas sorti de l'islam. Parce que tu es contraint. Tu vois? Un acte, je suis dans le désert, et je meurs de soif et je trouve de l'alcool. Je bois ou je dis non, c'est haram? Je suis contraint, je vais mourir de soif. Tu bois. Les savants disent, tu bois, mais quoi? Pas jusqu'à devenir ivre. Tu bois juste la quantité qui te suffit d'être bien. Pareil, je trouve du porc, je mange que la quantité qui me permet de vivre. Pas je mange jusqu'à je deviens halouf. Non. Faut pas comprendre les choses tout le temps comme ça là. Tu prends juste la quantité qui va te suffire de terminer ton voyage. Donc dans les nécessités, on autorise les interdits. Et comme je vous ai dit, ces nécessités-là et ces autorisations-là, c'est pas nous qui les fixons, c'est les savants. D'où l'importance d'avoir dans le téléphone quelqu'un de confiance. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith que rapporte Ibn Majah al-Bayhaqi, إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Le prophète Hassan dit, de ma communauté, Dieu a absous l'erreur, Dieu a effacé l'erreur, ok? L'erreur, l'oubli et ce que ses membres font sous la contrainte. C'est pas compté. L'erreur, tu t'es repenti, c'est effacé. L'oubli, t'as fait une chose par oubli, c'est pas compté. T'as fait une chose en étant contraint. Ceux qui font une chose en étant contraints et la foi elle est dans leur cœur, eux il n'y a pas de problème. Amr ibn Yasser radiallahu anhu, quand ils ont tué sa mère et son père, et après ils sont venus, ils ont dit Udhkur Vobel, maintenant tu vas dire du bien de nos dieux, nos statues, sinon on va te tuer. Et il a dit, voilà, Alayhatikum Bikhair, vos divinités c'est des bonnes divinités, c'est des bons dieux vos statues. Il a prononcé une parole de kouf. Le prophète quand il est venu le voir, il lui a dit, comment était ton cœur quand tu as prononcé cette parole? Il lui a dit, plein de fois. Et dans mon cœur, je reniais ce que je disais. Il lui a dit, s'ils reviennent, fa'in adu fa'ud. S'ils reviennent et te disent, renie ta foi, recommence. Pourquoi? C'est une contrainte. Tu vois? Et là, ce jeune, il était contraint. Ils l'ont torturé, ils lui ont fait des trucs insupportables. Et c'est un jeune. Donc, celui qui est contraint de faire une chose haram, que ce soit un acte ou une parole, Allah ne s'en prendra pas à lui. On voit que les trois n'ont pas renié leur religion, malgré qu'ils avaient l'autorisation de le faire. Ils pouvaient le faire. C'est vrai, c'est pas vrai. Parce qu'au final, eux, ils croyaient pas que le roi c'était le dieu et tout ça. Mais ils sont restés fermes. Et en fait, de ça, on en tire une grande leçon. C'est que si l'affaire ne concerne que toi, que toi-même, t'as le choix entre renier la religion ou pas. Bien sûr, en étant contraint. J'ai bien dit contraint, à condition que tu sois contraint. Si ça te concerne que toi, tu peux dire par exemple, voilà, vos statuts sont bien. Et après tu te repens et c'est entre toi et Allah Azzajal. Mais si l'affaire concerne l'islam et les musulmans, et qu'en reniant l'islam devant les gens de ta communauté va les inciter à faire la même chose, dans ce cas-là, tu patientes et tu restes ferme dans tes propos. Pourquoi? Parce que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Vous comprenez? Quand le truc, il s'agit maintenant des musulmans, si moi je renie ma religion, tout le monde va me suivre, là qu'est-ce que je fais? Non. Mais si ça ne concerne que moi, là j'ai le choix. Et ça nous rappelle l'épreuve de l'imam Ahmad, rahimahullah. Lorsqu'on l'a forcé à dire que le Coran était créé, et que ce n'était pas la parole d'Allah. Vous savez tous que le Coran c'est la parole d'Allah. Le Coran, kalam Allah. Et Allah parle. Et on a déjà parlé des attributs d'Allah Azzajal. Qui peut m'expliquer, parle comment? Celui qui a la réponse, il lève la main. Le wahi, naam. Mais les gens vont dire, par exemple, Allah il parle et les créatures ils parlent. Donc tu as fait ressembler le créateur à la créature. Et Allah a dit, laïsa kamithlihi shay. Naam. Justement, il y a des gens, ils renient qu'Allah parle. Donc ils disent, le Coran c'est pas la parole d'Allah. Il est créé. Barakallahu fik. Il parle d'une manière différente de ses serviteurs, c'est tout. Khalas. Dans les attributs d'Allah Azzawajal, il nous est interdit de dévier le sens des attributs, de les nier, de poser le comment ou de les assimiler à ceux des créatures, de les faire ressembler à ceux des créatures, de dire voilà, si Allah il parle, donc le cerveau, tu le mets à côté, loin de l'imagination des attributs d'Allah Azzawajal. Ok? Donc l'imam Ahmad, quand à son époque, tous les savants qui existaient, ils disaient que la parole, le Coran, c'était en fait une création. La création d'Allah. C'était une créature d'Allah Azzawajal et non sa parole. Et l'imam Ahmad était le seul savant à son époque qui disait que la parole d'Allah, c'était bien ce Coran. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attaché à une mule et l'ont fait traîner dans les marchés de la ville en le fouettant jusqu'à il s'évanouit. Et quand il reprenait conscience, la première phrase qu'il disait c'était Al-Qur'an kalamullah ghayr makhluq. Le Coran c'est la parole d'Allah, il n'a pas été créé. Pourquoi? Parce que les gens là, ils attendent qu'une seule chose. Ils savent que l'imam Ahmed, rahmatullah, c'était le plus grand savant de son époque. Si l'imam Ahmed dit il est makhluq, il est créé, on le suit. Si l'imam Ahmed dit il est, c'est la parole d'Allah, on le suit. Donc on voit ici que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Et il est resté ferme, rahmatullah, jusqu'à ce qu'Allah a donné victoire à sa parole, et c'est sa parole qui l'a emporté. 17e leçon, l'importance du dua. Le jeune, la première chose qu'il a fait, c'est quoi? Quand ils l'ont pris en haut de la montagne, il a dit Allahumma kfinihim bima shi'ta wa kayfa shi'ta. Allah, ô Seigneur, sauve-moi d'eux par ce que tu veux. Le dua, est-ce que nous, quand on est en détresse, est-ce que nous, quand on est dans des difficultés, on pense directement à Allah? Est-ce qu'on lève les mains au ciel et on demande à Dieu? Est-ce que ça fait partie de nos réflexes? Allah Azzajal dit dans Surat al-Naml, Surat 27, verset 62, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرْ إِذَا دَعَى. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَى هُوَ الْعِبَادَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي. L'invocation est l'adoration même. L'invocation, ça fait partie de l'adoration. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens, sans citer toujours de nom, de groupes, qui arrivent à un stade où quand il fait tellement d'adoration, il ne demande plus à Allah. Il dit, ça, j'ai plus besoin de lui. Miskin, malade. Non, il ne demande plus. Et on en entend beaucoup des choses bizarres. C'est pour ça, apprenez la vérité, ne vous souciez pas d'aller voir telle secte comment elle pense, telle secte comment elle pense, parce qu'en faisant ça, vous allez perdre beaucoup de temps. Apprenez la vérité, le chemin des salaf salih, tout avec preuve et avec explication. De cette manière, on ne s'égare pas. Mais d'aller tout le temps fouiller et rester 2-3 ans à étudier les chiites et leurs 8 dizaines de groupes, et après les soufis, et après un tel et un tel, au final, qu'est-ce que tu as acquis comme science? Quand tu lui dis, qu'est-ce que tu as comme bagage dans ta haine? Tu connais combien de sourates? C'est là que c'est triste. L'arabe, combien t'as appris de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dis-moi qu'est-ce qui annule la prière. Là c'est triste quand tu vois qu'il a fait passer ça avant ça. Là c'est triste. Et on apprend la vérité, on se soucie pas, on fait même pas de publicité pour ces gens-là. On fait même pas de publicité, ça sert à rien. 18e leçon, c'est qu'il faut prêcher la vérité même si elle est amère à entendre. Même si elle est amère à entendre, mais avec sagesse et science. Avec sagesse et science. Et des fois, il y a des vérités où il faudra laisser un certain temps avant de les dire. Par exemple, avec mon père et ma mère, c'est trop électrique de parler de religion. Donc, j'y vais doucement. Déjà, je montre un bon exemple. Je pratique la religion comme Allah l'a demandé. Et eux, quand ils vont voir la beauté, le comportement de l'islam en moi, ça va directement les faire tilter. Et tu fais le dua, comme il a dit le prophète dans Musnad Imam Ahmad, quand tu fais un dua, quand tu demandes à Allah Azza wa Jal, il t'arrive une de trois choses. Soit Allah exauce ton vœu directement et t'as ce que tu veux. D'accord? Soit il te garde ce dua comme récompense le jour du jugement. Il te le transforme, son équivalence, en bonne action. Et voilà, t'as pas eu l'exaucement de ça, mais t'as des bonnes actions qui t'attendent le jour du jugement. Ou dernière chose, qui te repousse un mal qui équivaut le bien que t'as demandé. T'allais te faire écraser par une voiture, et rappelle-toi que t'avais fait des doigts pendant un moment, et en fait, tes doigts ils sont pas perdus au final. Parce que beaucoup de gens disent, on invoque, on n'a pas de réponse. Donc j'invoque plus. Ou je vais invoquer pour demander et voir, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Le prophète il a dit, Ud'Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Faites demander à Allah en ayant la certitude que vous aurez une réponse. Allah, on ne le teste pas, on n'essaie pas de voir si ça marche ou ça marche pas. C'est sûr et certain que ça ne marchera pas si tu n'as pas la certitude en Allah Azza wa Jal. Tout ça, ça nous apprend que le dua est très important. On voit que le jeune, après qu'ils l'ont jeté de la montagne, il retourne chez le roi car il a un message important à faire passer. Et tout ça nous montre que ce jeune avait une foi remarquable. On voit aussi que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Ce jeune s'est sacrifié dans le but de faire embrasser les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il s'est sacrifié. Subhanallah, il s'est mis sur un tronc, il s'est mangé une flèche, et tout ça, il savait pas le résultat, il allait être comment. D'où l'importance de faire la da'wah et de ne pas se soucier du résultat. Toi, tu jettes les graines. Tu appelles, tu jettes tes graines.
Peut-être que ces graines, on va les voir dans une génération, 2, 3, 4, c'est pas grave, mais tu la jettes cette graine. Tu appelles Allah Azza wa Jal. Subhanallah, wallahi radim, il y a deux jours, j'étais chez ma mère et ça sonne. J'ouvre la porte, deux femmes, ils me disent, voilà, vous êtes invités à la plaine Saint-Denis pour connaître l'histoire de Jésus, nous sommes les témoins de Jéhovah, je sais pas quoi, etc., etc. Je dis, ajib, subhanallah, les gens ils sont loin, égarés, en train de dire des trucs qui n'ont pas de sens. Et nous, on a la religion de la vérité et on n'appelle personne à cette religion. On a honte, c'est même pas de faire du porte-à-porte. On a honte de dire à celui qui est à côté de moi, eh, je vais faire la prière, tu viens avec moi. C'est pas catastrophique ça, hein? Les gens, ils n'ont pas honte de mettre les femmes en mini-jupe dehors et faire des boîtes de nuit et de faire des trucs pour propager le haram. Et toi, t'as honte d'appeler les gens au paradis. Il y a quelque chose quand même qui va mal. On voit aussi que l'intelligence peut vaincre la force. Ce jeune, il est intelligent. Il a vaincu la force du roi avec une idée toute simple, c'est de lui dire « Dis Bismillah Rabbil Ghulam ». Et que la croyance est l'arme la plus forte. L'arme la plus forte. 19e leçon, le sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Quand ils ont cru en Allah, il a creusé des fossés. Et il a allumé des feux. Et il a dit, voilà, maintenant ceux qui renient pas leur foi, c'est ici qu'ils vont finir. Ça fait à peine quelques heures qu'ils sont croyants et ils n'ont pas hésité à se sacrifier en mourant martyr. Car dans le cas contraire, il fallait qu'ils mécroient, chose qui les aurait fait entrer en enfer éternellement. C'est quoi ? Vivre et rester comme ça en reniant sa foi et après finir dans un feu qui est 70 fois plus brûlant que celui-là, ou maintenant, et allez, ça y est, le fait que juste on soit dans ce feu-là, on va directement au paradis, on est martyr. Le jeûne, c'est sacrifier ainsi que les gens pour Allah. Nous, ce qu'on vous demande, c'est pas de faire ce sacrifice-là, mais de sacrifier votre temps pour apprendre la religion. Sacrifier un peu ton temps pour faire tes prières. Des gens aujourd'hui, ils viennent, ils te posent la question. Je suis à l'école, j'arrive pas à faire la prière. Dora'as, maghreb, asha, il fait, il saute. On dirait toute la journée, il est à l'université ou à l'école. Fais des efforts, sacrifie, fais des efforts pour Allah Azza wa Jal. Sacrifie de ton temps, sacrifie ce bon monde pour Allah. Sacrifie pour que le jour du jugement, t'aies quelque chose à présenter à Dieu. Qu'est-ce qu'on va présenter? On meurt tous maintenant, tout de suite. Moi, en premier, qu'est-ce que je vais dire à Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? On a transmis le message. On a appelé les gens au bien. On a plein de voisins qui ne sont pas musulmans. On leur a montré la bonne image de l'islam. Nos profs, nos amis. On leur a dit, allez, on commence à faire la prière. Les gens, faites attention, non, ne jette pas ta canette par terre. Ça ne fait pas partie de l'hymen, etc., etc. Montrez la beauté de cette religion. On est devenu, hélas, un obstacle. Une barrière entre nous et les gens, l'islam et les gens. C'est vrai, les gens ils n'arrivent plus à découvrir la beauté de la religion. Après t'as les médias, ils arrivent à manipuler les cerveaux même de musulmans, hein. Vrai ou faux? Les musulmans au final ils disent quoi? L'islam, terroriste, voilà. Non, on veut le juste milieu, ni ça, ni ça, hein. Et aujourd'hui on demande aux gens de se sacrifier. Regardez, ce jeune là il s'est sacrifié, c'est même pas un prophète et il a sauvé une communauté entière. Nous, dans notre maison, on a des gens qui ne font pas la prière. Des sœurs qui ne portent pas le hijab. Des gens qui commettent du haram. Des gens qui ne veulent pas faire le halal et l'obligatoire. Et on se tait. Et tu vas dire quoi, Allah Azza wa Jal, le jour du jugement? Tu vas lui dire quoi? C'est pour ça que chaque personne doit sacrifier tout ce qu'il peut sacrifier pour Allah Azza wa Jal. Tout. Et à la fin, mon frère, t'as le paradis éternel. Tout, sacrifie ce bas monde. Ne t'attache pas à ce bas monde. Sache que plus tu t'attaches à ce bas monde, plus tu t'éloignes de l'au-delà. Et plus tu t'éloignes de ce bas monde, plus tu te rapproches de l'au-delà. Les jeunes, quand ils sont dans un cercle et dans un milieu où ils pensent qu'à la mode, aux vêtements, aux vacances, aux femmes, aux hôtels, à manger, tout ça aux sorties, crois-moi, celui-là, l'au-delà, il y pense rarement. Et quand on lui en parle, ça lui fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude d'écouter ses paroles. Il n'a pas l'habitude. Ça lui fait un mal. Et même qu'il va essayer d'esquiver ça. Si son chétan il est trop fort, il va dire, attends deux secondes, j'ai un coup de fil. Hop, comme vous connaissez très bien, j'ai pas besoin de vous raconter plein d'histoires. Patientez. Et dernière leçon, c'est la 20e. Tant que tu es sur le chemin de la vérité, patiente. Et c'est ce que le bébé a dit à sa mère. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, mère, patiente car tu es sur la juste voie. Chaque frère et chaque sœur qui m'entendent, patientez. Chaque frère et chaque sœur qui entendent de leurs parents, depuis que tu es dans l'islam, on te déteste, patiente. Chaque frère, depuis qu'il voit ses parents le voir faire la prière et qu'ils lui disent du mal, patiente. Chaque sœur qui a porté le voile et qui s'est fait critiquer par ses parents, patiente. Chaque frère qui, en allant à la mosquée, s'est fait traiter de telle ou telle ou telle insulte, patiente. Patiente. Au final, t'es de passage. T'es de passage. C'est pas ici notre demeure finale. On est de passage. On peut mourir à n'importe quel moment. Il faut, comme le prophète m'a dit, qu'on fait dunya ka'anna karib aw abir sabil. Soit dans ce bas monde, comme un voyageur ou un étranger de passage. L'étranger de passage, il a sa valise. Il a dans cette valise-là juste quelques vêtements de quoi lui permettre, voilà, de passer ses vacances ou sa période dans cette terre-là et partir. Tu dois avoir le minimum de provisions, le minimum de choses. Ne t'attache pas à ce bas monde. Tu vas le quitter tôt ou tard. Et ce qui va rester avec toi, c'est tes bonnes et mauvaises œuvres. Est-ce que tu auras assez de bonnes actions le jour du jugement pour parler avec Allah, ou ça sera limite, ou tu vises la moyenne comme dans tes contrôles? C'est dangereux. C'est très très dangereux. C'est très dangereux. Donc, il faut patienter. Et sachez que ce qui nous arrive quand on est dans le chemin d'Allah Azzawajal, c'est normal. L'homme le plus pieux qui puisse exister sur terre, le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il en a entendu plus que ça. Majnoun, sahir, yufarriq bayna al-mar'i wa zawjihi. Il a entendu, il sépare entre l'homme et la femme. C'est un sorcier, c'est un poète, sha'ir, c'est ainsi, il est fou, il est ça. Aqad Nabi Mu'ayt, il a versé les selles de chameau, les entrailles de chameau pendant qu'il prosternait. Toutes les saletés qu'il y a dans le ventre du chameau, il lui a versé sur le dos pendant qu'il priait. Fatima radhiyallahu anha, elle a vu ça, elle a pleuré. Pourquoi vous faites ça à mon père? Son seul crime, c'est qu'il a cru en Allah Azzawajal. Comme ce jeune, pourquoi il a été tué? Son crime, c'est la ilaha illallah. C'est ça le crime aujourd'hui pour lequel on met en prison et on tue. Il dit la ilaha illallah, khalas. Tu vois? Et c'est pour ça que là, l'être humain doit patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est fait même étrangler avec le châle de Aqba ibn Abi Mu'ayt. Il l'a étranglé jusqu'à l'étouffer. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu qui reprend: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Vous tuez un homme juste parce qu'il a dit mon Seigneur est Allah. C'est ça qui a causé sa mort. C'est ça qui cause que vous voulez lui faire du mal. Patientez, c'est le message le plus important. Ce qu'il a dit cet enfant là à sa mère, patiente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Muslim, on ramènera la personne qui a vécu la meilleure vie sur terre, min ahli dunya, la meilleure vie sur terre, et on le trempera une fois au paradis, une fois en enfer pardon. Cette personne là on le trempera une seule fois en enfer, et après Allah il va lui dire: est-ce que tu as vu une chose de bien dans ce bas monde? Il a vécu la meilleure vie, la meilleure vie, imagine-toi la meilleure vie. Et il est trempé une seule fois en enfer. Hal ra'aita khayran qat? La wallahi rabb. Non, par Dieu, j'ai rien vu de bien dans ma vie. Le fait d'être trempé une fois en enfer, ça te fait oublier tous les plaisirs. Les jeunes aujourd'hui, quand ils marchent avec des filles et qu'ils commettent l'adultère et qu'ils sortent et qu'ils se font plaisir sur internet, MSN, email, téléphone portable, tout ça, et des cachettes et des sorties, des rendez-vous du cinéma, et qu'après ils se font plaisir, sache que le fait d'être trempé une seule fois en enfer, tu vas oublier tout ce que tu as fait avec ces filles-là. Tu vas oublier tous ces biens et tu vas voir que ça n'en valait pas la peine. Et qu'il fallait que tu sacrifies comme ce jeune a sacrifié. Il fallait que tu sacrifies. Il va dire: j'ai jamais rien vu de bien. Et on ramènera la personne qui a eu des épreuves, comme ce jeune. Plein d'épreuves, les épreuves les plus lourdes des gens du paradis. Et on le trempera une seule fois au paradis. Est-ce que tu as vu un mal dans ce bas monde? Non, wallahi. J'ai jamais rien vu de mal dans ce bas monde. Jamais rien vu. Patientez. Patientez et montrez la bonne image du musulman. Apprenez l'islam comme il est venu dans le Coran et dans la Sunna. Propagez cette religion. Appelez les gens au bien. Subhanallah, le prophète me dit: nul ne sera un véritable croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Vos voisins. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari, il dit: Jibril m'a tellement fait de recommandations sur le voisin que j'ai cru qu'il allait mériter. Nos voisins, ils ont déjà entendu parler d'islam? Est-ce qu'ils ont au moins vu de nous un bon comportement et on a évité de leur faire du mal? On ne se gare pas devant leur parking. On ne jette pas nos poubelles devant leur porte. On les salue, etc., etc. Est-ce qu'on a fait ça? Ou nos voisins, non? Ils n'ont jamais vu ça. Les savants, ils disent: ton voisin, en religion, tu sais c'est qui? C'est les 70 maisons qui sont autour de toi. C'est pas juste les deux de l'immeuble, de l'étage, hein. C'est large. Wallah l'a dit, mais on a besoin d'apprendre. Inch'Allah, on va faire un cours sur le comportement à avoir avec le voisin. Et le comportement, comme je vous ai dit, c'est la chose la plus importante dans notre religion. Donc, sachez que la personne, quand elle endure et qu'elle patiente, elle verra, inshallah, au paradis ce que nul œil n'a vu, ni aucune oreille n'a entendu, ni ce que aucun cerveau n'a pu imaginer, comme dans le hadith qui rapporte Bukhari et Muslim. وهذا ما أعلم الله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك